Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Cette semaine, c'était un géant de la charité en France, Jean Vanier, fondateur de l'Arche Communauté de Vie avec des personnes handicapées. Jean Vanier a su montrer que la tendresse naît de l'acceptation de nos fragilités, a-t-on dit de lui. La tendresse ou la fragilité, cela pourrait être les fils rouges de nos trois films de ce matin. La tendresse d'une grand-mère devant le choix fou de son petit-fils tenté par le djihad, avec l'adieu à la nuit d'André Téchiné. La tendresse du regard d'une réalisatrice sur les glaneurs, ces hommes et ces femmes qui se nourrissent par nécessité ou par choix dans nos poubelles, avec les glaneur et la glaneuse d'Agnès Varda, l'acceptation héroïque de la fragilité des chrétiens sous l'Empire romain jusqu'au martyr, avec Ovadis de Mervyn Leroy.
C'est Melville.
C'est Melville, merci beaucoup. C'est bien entendu sa voix. Bonjour Louis-Marie. Cette émission Vivante Église ce matin, le grand écran, on retrouve avec bonheur nos deux compères cinéma, Louis-Marie Solaire, producteur de l'émission cinéma de Radio Présence, n'oubliez pas l'ouvreuse, le mercredi à 19h. Bonjour Louis-Marie.
Bonjour Emmanuel et pardon.
C'est Merville ou Mervyn ?
C'est Melville.
Melville.
Pas Melville, je me trompe aussi, c'est Melvin.
Melvin le roi. Bon, on en reparlera. Bonjour Paul.
Bonjour Emmanuel. Paul, et bonjour à tous.
Voilà Paul, l'intervenant cinéma au Coteau Païssé, centre jésuite dans le sud-ouest. Et tous deux donc animateurs de ce ciné-parole, on le dit et on le redit parce qu'il paraît qu'il y a de plus en plus de monde, mais il y a encore des places dans la salle. Donc une fois par mois au cinéma L'ABC à Toulouse. Pour l'instant, en tout cas que dans un cinéma L'ABC à Toulouse, un film à l'affiche. Et derrière discussion et commentaires pour essayer de creuser. Et donc le film à l'affiche que vous allez donner dans le cadre de Ciné Parole, je redonnerai les dates avant chaque pause musicale, c'est donc L'Adieu à la nuit, film d'André Téchiné. On va commencer comme d'habitude par écouter la bande-annonce.
Il y a si longtemps qu'il n'est pas venu.
Tout va bien, mon chéri?
Toujours pas de réseau ici?
Je voulais te dire que ça ne me dérangerait pas du tout hein, que Lila dorme ici avec toi. Je trouverais même ça normal.
Et je sais que tu trouveras ça normal, mais pas moi. Est-ce que t'es heureuse?
Oui, je suis heureuse de la vie que je mène. Surtout quand tu viens me voir.
Subhana Rabbi al-Hadim. Subhana Rabbi al-Hadim. Allahu Akbar.
Tu m'as vu?
Mais je savais pas que...
Je savais pas que quoi?
Que tu étais croyant.
Maintenant, tu le sais.
Bah là, il manquait exactement 6000. Et puis, arrête de me casser la tête avec ma grand-mère. Je veux rien lui demander.
Je t'aime, grand-mère. Peut-être que je ne te l'ai pas assez montré, mais je t'aime beaucoup. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Je ne t'oublierai jamais.
C'est grave de faire ça, Alex. D'abord voler, et en plus, ta propre famille, c'est un double péché.
Alors, on fait quoi? On part pas? L'argent qui nous manque, je peux pas l'inventer, Lila.
Tu feras quoi si je meurs?
Tu pars.
Qu'est-ce que tu vas foutre à Istanbul? Tu vas passer la frontière?
Ouvre.
Non.
Mais je sais très bien comment ça se passe là-bas. Votre petit-fils y reviendra pas.
Voilà, L'Adieu à la nuit, donc d'André Téchiné. Alors si on doit situer donc l'intrigue, au printemps 2015, Muriel est ravie que son petit-fils Alex revienne la voir. Muriel est une grand-mère donc installée dans le sud de la France, au milieu d'une plantation de cerisiers. Elle élève des chevaux et puis petit à petit, on l'a entendu dans la bande-annonce, cette femme découvre en fait quel est le projet secret de son petit-fils, converti à l'islam, mais pas n'importe quel islam. Islam dur, radical, islam extrême. Et donc il s'apprête à partir pour la Syrie avec une amie d'enfance, Lila. Sur l'histoire, Louis-Marie, est-ce que vous voudriez rajouter quelque chose avant qu'on aille plus loin?
Le fait de savoir l'intrigue, parce qu'on peut, on peut se demander si on n'a pas dévoilé ce qui va se passer dans le film, puisqu'au départ, le jeune homme fait croire à sa grand-mère qu'il s'en va au Canada. Mais en fait, en moins d'une demi-heure, André Téchiné plante l'histoire et on connaît l'intrigue et les enjeux en moins d'une demi-heure. Donc effectivement, en parlant de ce qui se passe pour Alex et le fait qu'on découvre très rapidement que son projet est de partir faire le djihad avec sa jeune amie, c'est ce que veut montrer André Téchiné en choisissant un décor de campagne. Il a toujours beaucoup aimé les décors, j'allais dire bucoliques, mais c'est un peu ça.
Il est du sud-ouest.
Il est du sud-ouest. Hein. Mmh. Et il a choisi, c'est pas loin d'ici, hein, on est en Catalogne, à la limite, on est au bord de la mer, dans ce centre équestre. Et il montre quelque chose de beau, d'aéré, le décor, avec quelque chose de très sombre, qui est le projet de ce jeune homme.
Alors, les critiques. La Croix, pour son 23e long métrage, André Téchiné, dresse un portrait intime et vibrant de jeunes gens tentés par un ailleurs mortifère. Le Monde, la beauté et la pertinence du film tient d'abord à ce qu'il ne cherche pas à expliquer le désir de djihad des trois personnages. Le Parisien, dans l'adieu à la nuit, le cinéaste retrouve pour la 8e fois son actrice fétiche, en l'occurrence Catherine Deneuve, pour un film éblouissant marqué par l'actualité la plus sombre. Moi, il m'est venu une question, moi qui suis moins familier des salles obscures que vous deux, c'est une habitude maintenant pour le cinéma français de porter à l'écran des histoires de djihadistes ou autres, en fait on n'en est qu'au début, qu'au balbutiement.
Non, c'est pas une habitude, c'est des sujets qu'on a peu vus, en particulier un sujet comme celui-ci, qui montre le cheminement d'un jeune homme qui finalement a une vie ordinaire, préfère mourir de façon éblouissante, si on peut dire ça comme ça. Non, c'est pas fréquent. On a vu d'autres choses, mais un sujet comme celui-ci, on l'a peu vu au cinéma, pour le moment.
Paul Dimain.
Et surtout avec ce type de traitement-là. Ouais. C'est-à-dire ce que relève d'ailleurs la critique du journal Le Monde, c'est ce qui est intéressant dans ce film-là, c'est qu'il ne nous demande pas de prendre position comme spectateur pour ou contre. Il dit voilà comment un jeune un peu en déshérence, pas plus que ça, mais sans projet, mobilisateur, etc., se fait embarquer et se présente à lui, le djihad, comme une façon de rejoindre un idéal et de, y compris d'y sacrifier sa vie.
Parce qu'il n'a pas l'air fou dans le film.
Non, il n'est pas fou, mais il est embarqué par un désir de pureté, de combat pour la justice, contre notre monde corrompu, etc. Il se laisse embarquer là-dedans. Et le film montre bien le désarroi de la grand-mère, jouée par Catherine Deneuve, devant cette jeunesse et son impossibilité à laisser faire les choses en disant bah, « c'est comme ça, c'est comme ça ». Et elle va prendre position. Alors on n'est pas obligé de tout raconter.
Non.
Pourquoi est-ce un beau film? Pourquoi l'avez-vous choisi particulièrement?
Parce que, en fait, le film, comme vient de le souligner Paul, le spectateur n'est pas pris en otage. C'est un peu facile de dire, d'utiliser cette expression, mais autrement dit, il a pas à prendre parti. On lui montre une situation et André Téchiné cherche à comprendre, à lui livrer pourquoi. Parce qu'en fait, c'est pas un film religieux ni islamophobe. C'est-à-dire qu'en fait, il montre comment le radicalisme islamiste relève moins de la religion que de la volonté de donner un sens à sa vie. Voilà, c'est tout simplement. C'est ce que je disais, et c'est ça. Et ce qui est fort, c'est la façon dont Téchiné met tout en parallèle. Il aime bien, il fait des échos. Par exemple, on voit un moment, le jeune Alex avec son ami Lila a retrouvé d'autres futurs djihadistes ou des gens qui sont convertis, et ils passent une après-midi très austère à parler de textes saints dont ils ignorent complètement le sens, hein, parce qu'en plus il n'y en a qu'un seul qui est capable de traduire l'arabe, alors on peut leur faire entendre et comprendre ce dont on a envie. Et puis d'un autre côté, on voit ce qui se passe au centre hippique, parce qu'il y a eu une compétition et le fils d'un des associés de la grand-mère, donc incarné par Catherine Deneuve, vient de gagner un concours hippique. Alors c'est une fête plutôt joyeuse, avec une musique qu'écoutent les jeunes gens, les ados, que pourrait écouter Alex s'il n'était pas parti vers cette religion, vers l'islam. Et il y a, ces parallèles. Comme à un autre moment, on voit la jeune Lila qui travaille dans un EHPAD, hein,
oui. Hein, mmh.
Et qui s'occupe merveilleusement bien des vieux.
Oui, très attentive, oui. Très douce, très voilà. Présente. Et en même temps, elle exhorte, enfin, elle pousse aussi son copain Alex à partir pour le djihad.
Voilà, donc « L'adieu à la nuit » de André Téchiné, film à l'affiche. Alors on s'est dit exceptionnellement qu'on allait parler d'un autre film à l'affiche qui nous intéresse tout autant. C'est « Lourdes », donc, film de Thierry de Mézières. On va écouter tout de suite la bande-annonce et on en parle rapidement.
Quand on est à Lourdes, on peut se montrer tel qu'on est vraiment, avec sa grandeur et sa faiblesse.
J'y ai cru au miracle. Mais des miracles, il n'y en a pas beaucoup, hein, quand on regarde bien. Mais il y en a tant et tant de personnes qui demandent quelque chose. On est trop nombreux aussi, c'est ça. C'est comme au loto.
Seigneur, Jean-Baptiste et Patrick vont aller à Lourdes pour demander le miracle pour Augustin.
Donc demain matin, tu te rappelles, on se lève à 6 heures.
Bienvenue Patricia, vous allez bien? La route n'a pas été trop longue?
Non.
Ici, on regarde à Lourdes, il y a des pauvres, des riches, des moins riches, des handicapés, des aveugles, des boiteux. C'est tout ce qui était auprès de Jésus il y a 2000 ans.
À chaque fois qu'on vient à Lourdes, elle se lave avec l'eau de Dieu ici. Pour ça, je prends un bidon à chaque fois.
J'accompagne un groupe un peu particulier. C'est des personnes qui se prostituent à Paris, que tous les ans, on emmène en pèlerinage ici. C'est très beau.
On m'a envoyé un truc, là. Une apparition de la sainte.
La sainte qui a apparu à la grotte. Il y a 300 personnes qui l'ont vue.
Comme on arrive à Lourdes, là, on a l'impression que la Vierge Marie, elle nous console. Comme une maman console ses enfants.
Quand on a la foi, on dépasse les montagnes.
Voilà, Lourdes, donc, film à l'affiche donc, de Thierry Desmézières et de, vous allez m'aider Louis-Marie, voilà,
Alban Turley.
Voilà, merci, je me perds dans mes fiches. Par contre, donc, je retrouve les critiques. Le journal La Croix, des gestes maladroits de jeunes hospitaliers aux farandoles joyeuses qui rassemblent bénévoles et malades. De la descente dans les piscines aux liturgies et processions, Lourdes offre une succession d'instantanés de vie et de foi aussi spontanés que profonds. Le Figaro, Thierry Desmézières et Alban donc Turley, révèle dans leur documentaire les vrais miracles quotidiens, lumineux. Et le Nouvel Observateur, j'ai noté aussi, les réalisateurs distinguent avec finesse la religion et ses dogmes discutables de la croyance intime, éminemment respectable, Paris réussi. Voilà, je ne sais pas si vous l'avez vu, l'un et l'autre, est-ce à voir ou pas, et si oui, pourquoi ou non. Paul Dima.
Je crois que tous les critiques sont unanimes en disant que c'est une façon assez extraordinaire de filmer en étant attentif et respectueux en même temps à ce qui se passe. Il est remarquable que les deux réalisateurs documentaristes ne sont pas croyants, mais tout en n'étant pas croyants...
C'est souvent les meilleurs films, hein, c'est
ils respectent,
parfois sur la foi chrétienne.
Hein, ils respectent ceux qu'ils filment. Et alors, ils ne montrent pas le côté... entre guillemets, miraculeux sensationnel de Lourdes, mais il montre le miracle de Lourdes qui est fait de la place occupée par les plus petits, les plus pauvres, ceux qui ont besoin, ceux qui les accompagnent. Et à travers leur façon de filmer, ils montrent non pas l'invisible, mais qu'il y a de l'invisible. Et ça, c'est la force de l'image du documentaire. Il n'y a rien sur les marchands du temple à Lourdes, ce qui vient souvent d'ailleurs comme critique, tout le commerce à côté. Il n'y a rien de tout ça. Les deux réalisateurs se limitent à l'espace pèlerinage et ils sont attentifs à ce qui est vécu par les pèlerins, ceux qui les accompagnent.
Louis-Marie, est-ce que vous pouvez nous dire un mot avant qu'on fasse une première pause de Thierry Desmézières et de Alban Turley? Donc Thierry Desmézières, c'est un journaliste au départ.
Oui, qui a beaucoup travaillé pour l'émission de TF1 7 sur 7 et qui a réalisé...
7 à 8. Non, 7 sur 7
Moi, j'ai 7 sur 7.
Ah ouais, non, mais d'accord, ok.
Non, non, 7 sur 7. Et il a réalisé de nombreux portraits pour cette émission. Et il en a réalisé à propos de comédiens, de couturiers célèbres. Et là, cette fois-ci, bon, il a choisi, comme l'a souligné Paul, de parler très particulièrement et de s'associer à Alban Turley pour aller voir, regarder ce qui se passe à Lourdes, et il le fait de façon très très puissante, très délicate, hein, puisqu'ils accordent avec leur caméra la même attention à tout le monde. Et on se rend compte que ce qui les a intéressés, le choix privilégié, c'est la condition humaine plutôt que la dimension spirituelle. Néanmoins, la religion est là de manière complètement décomplexée, et en particulier quand ils montrent un jeune curé qui est lui le côté plus joyeux. Finalement, ce qui est le plus grave, c'est le témoignage de ces gens, qui les raisons pour lesquelles ils sont venus à Lourdes. Et ce curé qui est chaleureux, décontracté, et qui a un franc-parler, et qui fait justement une pause bienvenue dans ces témoignages qui sont plutôt lourds.
Voilà, donc deux films à l'affiche. Alors vous disiez peut-être que, hors antenne, que Louis-Marie, que Lourdes, en fait, c'est une distribution un peu particulière, non? Ou c'est comme le film de Jean Vanier, c'est à la demande ou...
Non, non, c'est pas à la demande. Il sort en salle, mais il est distribué dans peu de salles.
Voilà, dans peu de salles, donc il faut se dépêcher. L'adieu à la nuit, donc, d'André Téchiné, pardon, je vais y arriver, et donc Lourdes, pour l'adieu à la nuit, pour ceux qui devraient nous quitter maintenant. Le ciné-parole, donc, au cinéma l'ABC avec nos deux messieurs, c'est donc mardi 14 mai prochain à 20h30 et jeudi 16 mai à 14h30. On fait une première pause et on vous retrouve.
Emmanuel Pella.
Le grand écran, c'est pour rappel donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, avec autour du plateau, pour ceux qui nous rejoindraient, donc Louis-Marie Soler, producteur de l'émission cinéma de Radio Présence, le mercredi soir à 19h, n'oubliez pas l'ouvreuse, et Paul Dima, intervenant cinéma au Côte-au-Pays, c'est centre jésuite dans le sud-ouest. Le chef-d'œuvre humaniste du mois, vous avez donc choisi, nous avons choisi donc Les Glaneurs et la Glaneuse de Agnès Varda. On va commencer comme d'habitude par écouter la bande-annonce.
Des patates mardi, des patates mercredi, des patates aussi.
En prenant tous les temps, il n'y a pas loin d'une tonne. Une tonne de pommes de terre gâchées. Et c'est comme le reste, hein.
Il y aura au moins 10 tonnes qu'on ne va pas ramasser. Donc ça fait quand même, pour le glaneur, ça fait du sport.
La grappille, c'est pas du gâteau, hein. C'est du boulot.
Si le glanage est d'un autre âge, le geste est inchangé dans notre société qui mange à satiété. Glaneurs agricoles ou urbains, ils se baissent pour ramasser. Il n'y a pas de honte, il y a du tracas, du désarroi.
Rap de récup. C'est malheureusement.
Ah, moi, c'est bien simple, je me nourris 100% poubelle depuis 10 ans.
C'est bon, ça?
C'est comme des cadeaux qui sont dans la rue, je sais pas, c'est comme si c'est Noël, les encombrants.
Ah, je l'aime bien découper.
Comme tu vois, il y en a beaucoup, ben, t'as envie de ramasser.
Ils peuvent glaner comme les pauvres d'autrefois.
Merci, maître.
Mais je vous en prie, je vais me promener dans les choux, si vous voulez bien.
Il y en a même qui sont difformes, forme de cœur.
Ah ben le cœur. Le cœur, je le veux.
Voilà, donc les glaneurs et la glaneuse d'Agnès Varda. Donc l'histoire, on l'a bien compris. Agnès Varda, donc grande cinéaste, vous allez nous en parler l'un et l'autre, qui est allée à la rencontre donc des glaneurs et des glaneuses d'aujourd'hui, en partant donc d'un tableau du célèbre peintre Millet, que probablement beaucoup ont vu, où l'on voit des glaneurs et une glaneuse, et c'est pour d'où le titre donc de ce film. Les glaneurs, ce sont donc ceux qui récupèrent, qui ramassent, soit ce qu'il y a dans les poubelles, soit dans les champs, ce que l'on rejette parce que ce n'est pas aux normes. Et ils sont plus nombreux qu'on ne croit en France. Voilà, c'est vraiment un très très beau film, on va dire, peut-être pour continuer d'introduire, entrecoupé aussi d'une réflexion sur le temps qui passe au regard de sa vieillesse à elle, et puis de réflexion, comment dire, il y a des alternances aussi avec des tableaux célèbres. Voilà, il y a toute une réflexion picturale aussi. Allez, Paul Dima, pour changer, qu'est-ce que vous me diriez pour présenter, je sais pas si on peut raconter une histoire pour un film comme ça, hein. C'est un film un peu patchwork,
c'est un film documentaire,
un style très particulier.
C'est un film au hasard des rencontres. C'est-à-dire que dans ce film, le titre est à double sens, les glaneurs et la glaneuse, dans la mesure où elle, Agnès Varda, se présente aussi comme glaneuse, qui avec sa caméra recueille des petits instants de rien, des paroles de gens dont on dit qu'ils ne sont pas grand-chose, et en même temps, eh bien, avec toutes ces images-là qu'elle recueille, et les paroles qu'elle écoute avec attention et respect, elle porte un regard empreint d'humour en même temps, mais un regard qui interroge notre société actuelle. Et la force de son cinéma et de son regard, c'est qu'elle dit les glaneurs, et moi comme glaneuse, disent quelque chose de notre société de rebut, de rejet, et des gens vivent de ça parce qu'ils n'ont pas autre chose, ou ils le font par choix aussi.
Voilà, c'est un film qui aurait plu au pape François, c'est ce que je me dis en vous écoutant, lui qui ne cesse de parler de la fameuse culture du déchet que développe notre système économique actuel. Louis-Marie Soler, est-ce que vous pouvez nous parler un peu d'Agnès Varda, grande cinéaste que tout le monde ne connaît pas forcément?
On en a beaucoup parlé ces temps-ci, malheureusement, au moment de son décès. Mais
C'était en mars dernier, c'est
oui.
ça
Agnès Varda, pendant toute sa carrière, a alterné films de fiction et films documentaires. Elle a commencé par la fiction, on se souvient de Cléo de 5 à 7, c'était en 62, puis il y a le formidable Saint-Antoine-Illoy en 85, avec une toute jeune actrice, à l'époque elle avait 16 ans, Sandrine Bonner, qui est devenue la comédienne qu'on connaît. Alors elle avait fait aussi des incursions dans le documentaire, et elle a parfois marié subtilement les deux. Elle fait toujours, en particulier dans les documentaires, des choses souvent personnelles. Il y a eu Jacques de Nantes, où elle a parlé de celui qui a été l'homme de sa vie, le grand Jacques Demy, hein, qui est le spécialiste de la comédie musicale à la française, avec son compagnon de toujours, qui lui aussi a disparu il n'y a pas très longtemps, Michel Legrand, qui avait écrit les musiques de ses films. Donc pour en revenir à Varda, eh bien, Paul Dima en a parlé, c'est sa façon de tourner, sa façon d'utiliser cette mini-caméra, comme certains prennent des notes.
C'est-à-dire que tous ces documentaires sont filmés comme ça, parce que là,
elle
se balade avec son caméscope. Là, c'est...
Pas tous, mais c'est-à-dire que maintenant, l'avènement l'avènement du numérique lui a permis de se promener avec un matériel plus léger. Néanmoins...
Elle se met en scène, du coup, aussi.
Elle se met en scène, bien sûr, puisque c'est la glaneuse. Finalement, les glaneurs et la glaneuse, on parle des glaneurs, ces gens qui... C'est un portrait de notre société à l'aube d'un nouveau millénaire, hein, puisque le film est sorti juste à la fin des années 90.
Et, 99, oui.
Et là, donc, elle montre ce que sont ces gens qui vivent de ce qu'ils ramassent dans les champs et surtout dans les poubelles aussi. Et elle fait aussi un autoportrait. Avec cette petite caméra, elle se met en scène. Mais il faut noter, malgré tout, que ce film, elle n'a pas tourné entièrement avec cette mini-DV. Hein. Finalement, elle avait une équipe de tournage. Le film dure 80 minutes, et il y a 65 minutes qui est tournée avec une équipe, malgré tout. Donc, c'est une grande cinéaste, très forte et très maligne aussi.
Donc Agnès Varda, Palme d'honneur du Festival de Cannes donc en 2015 et Oscar d'honneur en 2017. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur ce film ? Moi, ce qui m'a frappé dans ce film, c'est le regard qu'elle semble porter sur tous ces glaneurs et ces glaneuses. C'est-à-dire qu'à la fois, on sent qu'il y a un propos social, presque politique derrière, hein, en tout cas une réflexion, mais elle ne les moque jamais et pourtant, ce sont des gens simples, parfois aussi des gens qui sont pas toujours très équilibrés, hein. Enfin, je pense au moins peut-être à un, et on n'en sort jamais en fait en se disant, en riant en fait de ces personnages. Au contraire, on trouve que ce sont parfois, on se demande si c'est pas eux les princes et ceux qui ont tout compris. C'est ce qu'elle laisse entendre un peu, Paul. Est-ce que ça vous a frappé ?
Oui, tout à fait. Et sa prise de vue et sa prise de son, enfin le recueil des paroles qu'elle fait, est extrêmement respectueux. Et ça se sent d'emblée. C'est-à-dire, il y a jamais de jugement, il y a jamais de condescendance non plus. C'est un rapport où la personne est prise comme elle est, avec ses grandeurs et ses limites. Et ça, c'est rare au cinéma. Quand on regarde le DVD, il y a un bonus qui s'appelle « 2 ans après ». Et on peut trouver le DVD facilement, y compris à la médiathèque de Toulouse.
Et ailleurs en région, puisqu'on écoutait ailleurs en région.
Et hors de la région. Elle est retournée 2 ans après à la recherche des gens qu'elle avait rencontrés. Et on voit qu'il y a une histoire, une confiance qui s'est tissée. Et elle recueille un petit peu comme on fait une collection de
timbres.
De timbres. Elle a reçu quantité de courriers après son film qui ont dit « Vous m'avez fait découvrir des choses ». Et c'est merveilleux. C'est-à-dire que là, on voit ce qu'elle a glané, ce qui lui a été donné sans qu'elle ait à courir les champs.
Louis-Marie, je ne sais pas pourquoi est-ce un grand film. Qu'est-ce que vous diriez ?
C'est un grand film par le sujet dont a parlé Paul et la façon dont elle montre ces personnages qui sont tous... pétri de quoi d'humanité, en tout cas grâce à la caméra d'Agnès Varda. Puis Agnès Varda montre que même à l'époque, elle était déjà une vieille dame, mais elle reste une enfant, je sais pas, malgré tout, elle a encore cette audace qu'on a quand on débute.
Et puis elle s'émerveille là où on ne s'émerveillerait pas naturellement.
Exactement, c'est-à-dire qu'elle tourne, elle rencontre les gens. C'est comme ça que ça s'est passé. Elle a besoin de sa petite caméra ou elle a besoin d'une équipe, elle le fait. Après, elle se retrouve sur le banc de montage. Sur le banc de montage, elle monte son film. Elle retourne, elle ressort, elle reprend. Et puis, elle monte au fur et à mesure. Elle n'a pas une démarche très, pour le moins qu'on puisse dire, très classique du cinéma. Elle fait comme elle sent et elle sent bien.
On va faire une deuxième pause musicale et puis on va vous retrouver pour parler du chef-d'œuvre spirituel du mois, donc Covadis de, allez-y Louis-Marie, puisque je ne prononce pas correctement.
Je vais essayer de ne pas me tromper. Melvin Leroy, on va le dire à la française.
Voilà, merci. Et pour ceux qui nous quitteraient maintenant, je vous rappelle le prochain Ciné-Parole donc de ces deux messieurs au cinéma L'ABC à Toulouse sur le film à l'affiche dont on a parlé au début de cette émission L'Adieu à la nuit de André Téchiné. Ces deux Ciné-Paroles sont donc le mardi 14 mai à 20h30, ça sera Louis-Marie Soler, et le jeudi 16 mai à 14h30 avec Paul Dima.
Emmanuel Pella.
Le grand écran, c'est pour rappel donc l'émission Vivante Église de ce matin. Donc dernier film de cette émission comme promis. Donc Quo Vadis, chef-d'œuvre spirituel du mois de Melvin Le Roy ou Le Roy, comme dit Louis-Marie Soler. C'est donc un extrait musical qu'on a entendu évidemment dans cette deuxième pause musicale. Alors Paul Dima, pour une fois, c'est vous qui allez nous raconter l'histoire. Il faut dire donc c'est un film adapté d'un roman de Henri Sienkiewicz, donc auteur polonais, qui a écrit cet ouvrage en 1896, que un certain nombre d'auditeurs ont peut-être lu, et qui a reçu le prix Nobel de littérature donc en 1905. Racontez-nous l'histoire, Paul.
Alors, il faut dire d'abord que l'histoire de la Rome antique a servi d'abord à l'auteur du livre de régler quelques comptes avec un système oppressif en Pologne, c'est-à-dire que l'empereur romain représentait le pouvoir autoritaire et dans le film, les chrétiens représentaient le peuple polonais. Ensuite,
on a vu d'autres ouvrages comme ça, hein, évidemment.
C'est oui, bon, c'est intéressant, c'est une relecture de l'histoire où on permet de parler des bons et des méchants sans se faire taper dessus, puisqu'on dit « ah bah oui, mais c'est l'empereur romain, c'est les chrétiens du temps de Rome, donc... » ni vu ni connu.
Donc grand livre déjà, ça vaut le coup de le dire.
Grand livre. Et alors, de ce grand livre, Melvin Le Roy a fait une adaptation qu'on appelle un péplum XXL, c'est-à-dire que plus c'est difficile. Hein. Tu peux en dire
quelques
mots.
Oui, bien sûr, plus c'est difficile, d'autant que le projet remontait à quelques années auparavant, puisqu'avant que ce soit Melvin Le Roy, c'était John Huston qui devait se charger de la réalisation, et non pas Robert Taylor, pardon, dans le rôle de Marcus Vinicius, c'était Gregory Peck. Et puis ils sont tombés malades tous les deux et c'est Melvin Le Roy qui a pris les rênes du film et a choisi Robert Taylor.
Et ça a été tourné. Et ça a été tourné en quelle année, Louis-Marie, rappelez-nous.
C'est dans 1950 et ils sont allés.
Voilà, donc on n'avait pas les mêmes moyens que autour des années 2000, comme du temps de Gladiator et compagnie.
Quoi. Oui, c'est... mais néanmoins, pour tourner ce film, ils sont allés en Italie. Et ils sont allés à Cinecittà, le grand studio italien, romain. Et dans les années 50, c'était l'immédiate après-guerre et tout avait été détruit. Donc c'est finalement grâce à ce film et donc aux Américains que les Italiens ont retrouvé leur fameux studio et que ça donnait un renouveau au cinéma italien qui a marqué cette deuxième partie du XXe siècle de façon formidable. Mais c'est tous ces moyens énormes qui ont été mis en place pour tourner ce film qui il a atteint tous les records.
250 tonnes de matériel, ouais. 10 000 figurants, etc.
32 000 costumes.
Reconstruction du Colisée de Rome, etc. C'est gigantesque.
Avec des scènes incroyables, quand on voit les lions dévorer les chrétiens, on y croirait. Sans effets spéciaux. Avec effets spéciaux, vraiment. Mais en tout cas, avec beaucoup de talent à l'époque. Alors, Paul, pardon, l'histoire.
Alors, l'histoire, c'est aussi presque un roman photo, un roman d'amour. C'est-à-dire que le général ou le chef militaire qui revient victorieux avec ses armées, Marcus Vinicius, vient se présenter à Néron, qui l'invite à venir, et dit « non, je ne peux pas parce que mon armée campe aux portes de Rome et je ne peux pas rentrer moi dans Rome si eux ne rentrent pas ». Enfin bon, il y a tout un débat. Alors, on découvre l'empereur Néron, empereur falot, veule, qui se prend pour un poète, entouré d'une cour qui le sert de façon tout à fait servile, mais le déteste profondément. Et ce militaire, Marcus Vinicius, va tomber amoureux d'une jeune femme, Ligie, qui est la fille d'un roi vaincu, qui est hébergé dans une famille patricienne de Rome. Et il découvre...
Qui est une esclave, donc.
Qui est une esclave. Et il va en demander la protection. C'est-à-dire, il va le demander à Néron que ça soit lui le protecteur de l'esclave, ou qu'elle soit son esclave. Et il va découvrir, ce Marcus Vinicius, que cette femme et son entourage sont chrétiens. Et ils appartiennent donc à une secte abjecte, et athées, les chrétiens étaient athées pour les Romains, puisqu'ils n'avaient qu'un dieu, ça ne fait pas beaucoup, hein, les Romains en avaient à profusion, et qui refusent d'adorer l'empereur. Et donc toute l'histoire du film, ça va être la rencontre entre ce Marcus Vinicius et Ligie, et il va découvrir progressivement, avec la première communauté chrétienne de Rome, la foi des chrétiens. Et alors il va y avoir plein de péripéties. Ça va aller jusque au jeu du cirque où les chrétiens sont livrés aux lions. Il y a l'incendie de Rome. Alors c'est des scènes extraordinaires. Et à travers tout ça, on découvre l'originalité chrétienne au sein de cette Rome païenne.
Alors on va écouter justement un extrait. C'est un dialogue entre Ligie, donc cette femme esclave, dont Marcus Vinicius, général romain, est tombé amoureux.
Tu viendras assister à mon triomphe, je suppose. Et demain soir au palais, il doit y avoir un festin à faire pâlir les dieux.
Non. Non, je ne tiens pas à assister à ton triomphe demain. Il faut que je rentre. Bonne nuit, Marcus.
Dis-moi, qu'y a-t-il ?
Quoi ?
Qu'as-tu découvert qui te donne cet air-là ?
Je mentirais en prétendant que je ne suis pas attirée par ce que j'ai découvert en toi, Marcus.
Mais alors ?
C'est ce que j'ai entendu qui m'attriste.
On se fait forcément des ennemis en devenant célèbre. Qui a pu te dire du mal de moi ?
Toi-même, de tes propres lèvres. Tu as raconté de sinistres histoires de conquêtes et de massacres.
Des conquêtes, mais qu'est-ce qu'une conquête ? Sinon, le seul moyen d'unir et de civiliser le monde sous notre domination, même s'il faut verser un peu
non.
de sang.
Ce résultat s'obtiendrait d'une façon plus douce, plus efficace, sans combat ni hécatombe. Sans esclaves ni captifs ployant sous les chaînes qui les rivent à ton char triomphal.
On aura toujours besoin d'esclaves. Qui travaillerait ?
Paul parle d'un monde où il n'y aura plus jamais d'esclaves.
Ce va-nu-pied de philosophe est stupide de farcir ta jolie petite tête d'un tel monceau d'ânerie.
J'étais folle de croire que tu pourrais comprendre.
J'aurais voulu que tu sois une esclave comme je l'ai cru. J'aurais sûrement offert un bon prix de toi, une rançon de roi pour une fille de roi.
Et ensuite, tu m'aurais conduite en Sicile, avec toutes les autres.
Sur le meilleur navire.
Oh, quelle façon pour un conquérant de conquérir une femme. S'abaisser à l'acheter comme on achète une bête. Mais faut-il donc que tu manques de confiance en toi, en ton rôle et en ta mission, Marcus Vinicius. Que tu dois donc te haïr, te mépriser au fond de ton âme.
Tu oublies que tu es une otage de Rome, sans doute.
Voilà, donc extrait de Covadis, film de Melvin Leroy, pour ceux qui nous rejoindraient dans cette émission, donc le grand écran. Moi, ce que j'ai trouvé frappant, alors je ne sais pas si c'est pour ça que c'est un chef-d'œuvre, mais en tout cas, si on doit réagir sur cet extrait met bien en scène aussi quelque chose de la folie chrétienne de l'époque. Dans un monde qu'on imagine être le monde romain, les Romains étaient quand même civilisés par rapport à d'autres. Ce que dit cet homme peut être considéré comme censé par beaucoup, même la remarque qu'il lui fait de lui dire, on peut entendre presque certains parents en fait, hein, à l'égard du choix peut-être de certains de leurs enfants de la religion chrétienne. Il y a une forme de folie qu'on retouche du doigt dans ce péplum, Paul Dimain.
Oui, voire même de mépris de la part des Romains en disant mais c'est une religion de sous-hommes quoi. La Rome est conquérante et on obtient la victoire par la force. Et,
la folie, j'entends, c'est le choix de la non-violence.
C'est ça, voilà.
Qu'incarne le Christ.
Oui, oui. Et donc, vu par les païens comme étant une religion
de faibles. Louis-Marie, Melvin Leroy, puisque maintenant je le prononce correctement. Qui est-il ?
Il a une carrière.
Y a-t-il des choses à dire importantes sur cet homme ?
Il a une carrière typique de ce qu'était le début du cinéma. C'est-à-dire qu'au départ, cet homme, ce n'était pas le cinéma qui l'attirait. Hein. Son père œuvrait dans autre chose, quoi, la pâte à papier ou quelque chose comme ça, mais peu importe. Ça n'a pas trop d'importance parce que malheureusement, il était tout jeune, il avait 10 ans quand il a perdu son père. Donc après, le cinéma l'a attiré et il a commencé à travailler comme acteur. Et il a travaillé d'ailleurs pour Cécile B2000, qui est un autre grand réalisateur et un autre grand spécialiste de péplum, on se souvient.
Il a travaillé dans les 10 commandements. Donc, il a joué dans les 10 commandements.
Il a joué dans les 10 commandements. Et ce qui l'intéressait plus que de faire l'acteur, c'est d'être réalisateur. Et c'est ce qu'il a fait. Il a commencé par réaliser un film en 27, No Place to Go, en 1927, et avec un petit budget, et il a gagné beaucoup d'argent. Et ça plaît beaucoup à Hollywood. On dépense pas beaucoup et on gagne beaucoup, et ça lui a permis de continuer sa carrière. Et il a révélé quelques comédiens de grand nom du cinéma américain, comme Edward G. Robinson, dans un film sur la presse qui s'appelait Five Star, et aussi sur La Pègre, le fameux Little César, c'est Melvin Leroy. Et aussi Je suis un évadé, un très très grand film avec Paul Muni. Il a quand même découvert, je le disais, Edward G. Robinson. Bon, certains connaissent ce nom, cet acteur extraordinaire, mais il y a des noms encore plus célèbres que lui, comme Clark Gable, c'est lui qui l'a découvert, Loretta Young, Robert Mitchum, Lana Turner, doivent leur carrière à Melvin Leroy. Donc, c'est quelqu'un qui savait faire, quand même. Hein.
Alors, pourquoi est-ce un chef-d'œuvre, l'un et l'autre ? On imagine que vous l'avez choisi, pas seulement parce qu'il avait cette filmographie. Qu'est-ce que vous diriez, pourquoi ce film est, à votre avis, un chef-d'œuvre, Louis-Marie ?
Ben, c'est un chef-d'œuvre. Pas bon. Alors, on a parlé des moyens mis en place pour réaliser le film, qui sont colossaux. Mais c'est des moyens colossaux dont Melvin Leroy a su se saisir. Donc, il amène progressivement cette histoire, le personnage de Marcus Vinicius, qui est particulièrement antipathique au début, hein, méprisant envers les autres races, comme le disait Paul Dima, ces chrétiens qui sont des sous-hommes. C'est un coureur de jupons et qui ne trouve rien de mieux, c'est ce qu'on a entendu dans l'extrait que vous avez proposé, Emmanuel, qu'il achète la femme qu'il aime, quoi. Et petit à petit, cet homme va cheminer, il va montrer. Alors, il y a tout le clinquant du péplum hollywoodien, mais il y a quelque chose de fort et de profond qu'il sait mettre en avant, quand même. Et ça démontre une grande maîtrise de la mise en scène et de savoir raconter l'histoire. Ce qu'il a voulu montrer, il l'a bien montré.
Il faut dire aussi que Quo Vadis, on ne l'a pas dit jusque-là, ça veut dire « Où vas-tu ?» C'est l'interpellation, dit-on, de Jésus sur le chemin d'Emmaüs, quand il marche avec les pèlerins d'Emmaüs. Non, c'est l'inverse, en fait. C'est les pèlerins d'Emmaüs qui disent à Jésus « Où vas-tu ?» Et puis s'ensuit cette discussion et donc aussi cette révélation progressive.
Alors, dans le film, c'est au moment de la persécution, Saint-Pierre quitte Pierre, que l'on voit dans le film, quitte Rome, mais très inquiet, hein, en disant et là il est accompagné par un jeune qui Pierre s'adresse à Dieu en disant mais qu'est-ce que je dois faire, et Dieu lui dit si tu quittes Rome, j'y retourne pour être recrucifié, et Pierre retourne à Rome pour être avec les chrétiens et mourir avec eux. Et c'est le Quo Vadis de là. Et là, il y a une très belle image dans le film, même s'il est un peu poussé.
Donc c'est une adresse du Christ à Pierre.
C'est une adresse du Christ à Pierre. Où vas-tu ? Et Pierre retourne, parce qu'il fuyait Rome, et il retourne à Rome. Parce que Dieu lui dit, si tu pars, moi j'y vais. Donc il y retourne. Et il y a une image dans le film. Alors il retourne pour mourir. Et il y a son bâton de marcheur qui est planté dans le sol, et à la fin du film, quand on voit les deux héros qui échappent à la mort parce que la foule demande qu'ils soient épargnés, on voit le bâton de pierre qui est fleuri, c'est-à-dire que mort où est ta victoire, de l'arbre mort a jailli la vie, pour reprendre les paroles évangélique. Voilà.
C'est comme ça aussi qu'est représentée parfois la croix.
Tout à fait.
Pour finir, Paul, pourquoi vous diriez que c'est un chef-d'œuvre et que c'est un film à voir ?
Alors, c'est un film à voir parce que c'est un très beau spectacle, même si on peut sourire par certains moments du côté un petit peu. On voit que les dialogues sont très très bien construits aussi, très bien faits grâce au livre qui est... à partir duquel le film est adapté. Mais c'est en même temps intéressant pour ce que soulignait Louis-Marie. C'est avec tout ça, on pourrait dire c'est simplement comme les jeux d'aujourd'hui, on en met plein la vue. Eh ben non, pas seulement. C'est-à-dire qu'il y a une histoire profonde et intime qui se joue malgré cette profusion de décors et de figurants, où on voit une transformation lente par une vérité qui se fait en l'homme vers plus de respect, plus de... Voilà. Et alors, évidemment, Marcus Vinicius se convertit et il épouse dans la prison romaine, avant d'être livré au Lyon. Il épouse la belle Ligie et c'est Pierre qui bénit le mariage. Et au moment d'être livré, celui qui protège Ligie terrasse le taureau et la foule en délire demande qu'il soit gracié.
Le fameux pouce en l'air.
Qui ne date pas de Facebook.
Et ben, pouce en l'air en tout cas à vous deux à nouveau pour cette émission. Bravo messieurs. Une dernière fois donc le ciné-parole au cinéma l'ABC pour le film à l'affiche dont on a parlé au début de cette émission, L'adieu à la nuit de André Téchiné. Ce sera donc mardi 14 mai prochain à 20h30 avec Louis-Marie Soler et jeudi 16 mai à 14h30 avec Paul Dima. Un grand merci à vous et rendez-vous donc le mois prochain, c'est pour la dernière de l'année. Cette émission a été réalisée par Mathieu Courdi, vous pouvez la écouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.